J'ai commencé ma carrière en 1900, combien? 80, 79, 80.
J'étais pas né.
79-80, alors que j'étais chargé de poste à la DDE des Yvelines. Donc voilà mon origine. Je suis architecte de formation, bien que juriste d'adoption aussi quelque part, hein, comme le sait notamment de cœur, parce que c'est une obligation aussi. Et donc, j'ai quand même une expérience, c'est vrai, assez longue de toute l'évolution, notamment du droit de l'urbanisme, en l'occurrence, depuis cette époque-là. Et par ailleurs, j'anime un stage tous les ans pour nos ABF, nos services déconcentrés, sur la prise en compte du patrimoine dans les documents d'urbanisme, précisément. Et donc, à ce sujet-là, c'est vrai que je fais un historique, un petit peu du droit, qui ne remonte pas d'ailleurs à la loi d'orientation foncière nécessairement, hein, de 1967, hein, si je ne m'abuse, mais qui remonte carrément à la loi Cornudet. Parce que c'est dès cette époque-là, en fait, que les préoccupations, que je ne qualifierais pas de patrimoniales, mais de qualité du cadre de vie, déjà était présente à cette époque-là. Hein. Et donc, je vous propose de faire effectivement un très court, pardon, hein, parce que voilà, panorama un peu de l'évolution des textes, ne serait-ce que des textes même, et des obligations ou des incitations qu'il contenait pour effectivement l'aspect qualitatif effectivement des démarches d'urbanisme. Donc, au risque d'enfoncer, mais très rapidement, des portes ouvertes, c'est vrai qu'il y a une question de définition du mot patrimoine. Alors, ce n'est pas le patrimoine individuel qu'on transmet de père en fils. Là, cette fois-ci, c'est du patrimoine collectif, bien sûr, hein, qui, comme le dit Larousse, est en fait un héritage commun d'un groupe. Donc, encore faut-il que ça soit reconnu, partagé, etc. Bon. Dans cette acception de groupe, on peut distinguer un patrimoine culturel d'un patrimoine naturel. Là, je vous parlerai effectivement essentiellement du patrimoine culturel. Parce que c'est ma partie, du patrimoine matériel et immatériel, bien sûr, qu'en termes de documents d'urbanisme, on parle du patrimoine matériel, hein, et plus que du patrimoine matériel, du patrimoine immobilier. Hein. Donc on traite de l'immobilier, on ne traite pas du mobilier, a priori. Donc tout, a priori, aujourd'hui, même sous ces filtres-là, peut être considéré comme du patrimoine, en tout cas potentiellement, puisqu'on part pratiquement de l'élément historique jusqu'au grand paysage. D'accord? Tout peut être a priori qualifiable de patrimoine. Donc ça, c'est un point important parce qu'on peut être partout, en fait, réellement. Donc ça, c'est simplement donc une introduction. Ouais. Un document d'urbanisme tel que le plan d'occupation du sol jusqu'à la loi SRU avec les PLU, et les PLU également, ne traite que de l'espace physique et du droit des sols. Sauf que, bon, il y a des interférences aussi avec la vocation. Mais en tout cas, c'est du physique qu'on traite. Hein. On peut y traiter l'espace sous une approche quantitative, et ça a été quand même longtemps aussi le prisme, hein, puisque on a bien qualifié ça de plan d'occupation des sols. Donc c'est pas neutre quand même, quelque part, ça prouve la démarche. Mais aussi, bien sûr, d'une approche qualitative, sans qu'on puisse d'ailleurs forcément distinguer l'une de l'autre, entre parenthèses, j'y reviendrai. Sous cette dernière approche qualitative, on peut y différencier aujourd'hui, et c'est le lot commun pour tout le monde maintenant, du patrimoine architectural, du patrimoine urbain, du paysage, du patrimoine paysager, ou plus spécialement historique, archéologique notamment. Bon. Donc tous ces prismes-là sont des entrées, en fait, réellement, sur la question de la prise en compte du patrimoine dans les documents d'urbanisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la préoccupation qualitative n'a jamais été absente depuis l'origine, effectivement, du droit de l'urbanisme, et notamment des documents d'urbanisme. En tout cas, on ne les appelait pas déjà comme tels à l'époque, mais c'était le fait. Il s'agissait déjà donc d'une approche esthétique, ok. N'oublions pas qu'avaient été instituées les lois monuments historiques et sites avant. Hein, le début du XXe siècle, en tout cas, ou juste à l'orée. Mais surtout, on visait quand même à l'époque la qualité d'un cadre de vie pour la population. Hein. D'ailleurs, on utilisera le mot cadre de vie, je vous le fais remarquer, en 1978 pour la dénomination du ministère de l'Environnement et du cadre de vie, précisément, qui incluait l'urbanisme notamment également. Donc, regardons tout de suite l'évolution de ce droit. Donc, en 1919, la loi Cornudet, dite donc, qui constitue le socle primitif, quand même, on peut le dire ainsi, du droit de l'urbanisme, quelque part, même s'il existait déjà quelques petites choses, institue les plans d'aménagement, je vous demande de noter, d'embellissement et d'extension des villes. Embellissement, c'est intéressant pour nous. Sauf que le plan devait mentionner la direction, la largeur, le caractère des voies. Alors attention, parce qu'il y avait un quiproquo là-dessus, le caractère, c'était peut-être le dimensionnement des voies, leur niveau de fonction, en fait, réellement. Le caractère, ce n'était pas forcément le caractère de traitement, etc. Hein. L'emplacement, l'étendue et les dispositions des places, square, parce qu'on donnait beaucoup dans le square à l'époque, hein, pour le bien-être des populations, jardin public, terrain de jeu, parc, espace libre d'hiver, le bien-être de la population. Les réserves boisées ou non à constituer, les ancêtres des EBC, déjà à l'époque. Et les emplacements destinés à des monuments, disait le texte, édifices et services publics. Donc, vous voyez, la préoccupation figurait. Et ces plans comprenaient un programme. Alors, qu'est-ce que c'était ce programme, réellement? Mais enfin, en tout cas, c'était écrit ainsi, déterminant notamment les servitudes hygiéniques, archéologiques et esthétiques. Donc, vous voyez qu'il y avait cette prise en compte, dont les obligations devaient s'appliquer aux agglomérations, quelle qu'en soit l'importance, même si c'était prévu pour des communes de plus de 10 000 habitants à l'origine de cette obligation, présentant un caractère pittoresque, artistique ou historique, et inscrite également sur une liste établie par les commissions départementales des sites nouvellement constituées, effectivement au gré de la première loi sur les sites de 1906. Je vous ai, mais je ne vais pas le commenter tout de suite, enfin comme ça, parce que je n'ai pas le temps, mais je vous faisais fait un extrait du plan d'embellissement de la ville de Besançon. Alors il date de 1938, lui, hein, puisque les plans d'embellissement ont duré jusqu'en 1943, quoi, à peu près, puisque c'était la réforme de... Mais on voit d'ores et déjà qu'en termes d'embellissement, il y a beaucoup d'interventions quand même, hein, sur le tissu, hein. C'est-à-dire qu'on peut, redresser des voies, on peut réaménager complètement des cœurs d'îlots, etc. Tout ce qu'on voit, c'est quand même l'affirmation, par exemple, du système défensif qui avait été entre-temps classé monument historique, par exemple. Okay ? Donc on ménage à la fois les deux, et surtout on fait de l'urbanisme d'intervention quand même, hein, par rapport à la restructuration même éventuellement des tissus. Donc l'embellissement, oui, sauf, voilà. Donc ces plans ont duré, et ils n'ont pas forcément bien duré, parce qu'il n'y en a pas eu énormément. Et donc en 1943, on s'est avisé de faire évoluer ce cadre. Et c'est, on a institué à l'époque des projets d'aménagement, de groupements d'urbanisme. D'ailleurs, c'était intéressant de parler de groupements d'urbanisme, qui devaient définir les principaux espaces libres et réserves boisées. On retrouve en fait, hein, les éléments des plans antérieurs. Les zones dans lesquelles toute construction est interdite. Ça, c'est nouveau, ça apparaît nouvellement. Un programme fixant les règles des servitudes hygiéniques, archéologiques et esthétiques, je viens d'en parler, qui pourrait être justifié, dit le texte, par le caractère de la région et les nécessités locales. Le caractère de la région. On va retrouver ce terme de caractère longtemps derrière. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, le caractère de quelque chose? Plan et programme déterminent les zones de protection des monuments historiques ou naturels et des sites. Bah, ça, c'est la prise en compte des lois, bien évidemment, correspondantes. Alors, 1943, c'était aussi, n'oublions pas, la création du permis de construire. Donc tout ça, ça se coordonnait effectivement pour une application plus précise des choses. Hein ? En 1958, bah, vous savez, hein, c'est la rénovation urbaine quand même, déjà, et tout ça, c'est le centralisme étatique, tout ça. Et on crée cette fois-ci des plans d'urbanisme. C'est la première fois qu'on parle de plans d'urbanisme à part entière. Et notamment, on crée des plans d'urbanisme directeurs, les PUD, PDUI d'ailleurs, on les appelait à l'époque, puisque je m'en souviens. Enfin, je n'étais pas là, hein, mais en tout cas, c'était encore plus ou moins en vogue, pouvant être complétés par un plan d'urbanisme de détail. Ça veut dire qu'on pouvait aller dans un degré à d'échelle, de détail, qui peut nous intéresser, nous, aujourd'hui encore. Hein, c'est-à-dire à l'îlot, éventuellement, etc. Sont tenus d'avoir un plan d'urbanisme, les communes dans lesquelles l'établissement de ce plan se justifie, soit par l'accroissement démographique, c'était le baby boom à l'époque, hein, souvenons-nous, soit par le caractère pittoresque, artistique ou historique des lieux. Donc, encore une fois, la considération patrimoniale, en tout cas, de qualité du lieu. Ces documents devaient comporter un plan faisant apparaître la répartition du sol en zones, c'est la création du fameux zonage, en fait, hein, qui a perduré, bien sûr, après, et un règlement, notamment, qui fixe des règles et servitudes relatives à l'utilisation des sols, justifiées par le caractère de la région ou de l'agglomération. Alors, c'est encore assez vague, ça, bien évidemment, mais n'empêche que la direction est conservée et imprimée. Et ce plan détermine en fonction des nécessités propres au secteur ou quartier, on parle de quartier intéressé, les règles et servitudes justifiées par le caractère des lieux, encore une fois. Il donne lieu à des distinctions, croisant affectation et morphologie urbaine. Hein. Ça a été l'origine du zonage, à la fois la vocation, mais en même temps la morphologie, hein, en distinguant bien, effectivement, les zones d'habitat individuel, les zones collectives, etc., etc. Il faut savoir qu'entre-temps et auparavant, en août 1955, avait été créé le Règlement national d'urbanisme. Alors, je ne parle pas de document d'urbanisme, puisque c'était le Règlement national, mais il a influencé également. Et en 1961, ce Règlement national d'urbanisme s'est vu complété d'un article 21, le fameux article aujourd'hui R111-21, donc c'était l'origine en 1961, qui parle notamment de conservation de perspectives monumentales, etc. Je ne vous en fais pas le commentaire, vous le connaissez bien évidemment. Donc, si on peut conclure, c'est qu'en 1967, quand intervient la loi d'orientation foncière pour les plans d'occupation des sols, il y avait déjà un socle important, a priori, de préoccupations patrimoniales et qualitatives dans le droit de l'urbanisme. Et le POS n'a pas inventé les choses non plus de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, il y avait une approche potentiellement à la fois quantitative et qualitative de l'occupation des sols. Cependant, l'administration va s'employer dès le début des années 70 à en préciser et améliorer l'usage. Ainsi, la DAFU, à l'époque, la Direction de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, émet en 1973, c'est pour ça que je voulais ce document, hein, qui est celui-ci que j'ai retrouvé dans mes archives, oh, c'est très court, hein, qui donc émet une note technique relative au plan de masse dans les POS. Plan de masse, ça peut être patrimonial, justement, hein, pour une qualité, notamment d'aménagement, etc. Et donc, on pointait notamment dans l'usage de ces plans de masse la question de l'intérêt esthétique. Sauf que, et ça je ne peux pas m'empêcher de vous le citer, il y avait un intérêt pointé fonctionnel, okay, organisation de l'espace, etc., un intérêt économique pour la valorisation, etc., et troisième point, un intérêt esthétique, disait le texte. En ce domaine, il convient sans doute d'être prudent, mais il est certain que la technique du plan de masse, qui préfigure une certaine forme architecturale moins uniforme et systématique que celle qui détermine la simple application du règlement, doit permettre de concevoir des formes d'aménagement urbain mieux adaptées au voisinage. Voilà le prisme dans lequel on s'inscrivait par ces plans de masse, qui étaient surtout des plans de masse fonctionnels, bien évidemment, à l'époque. Et ce qui le prouve, c'est le plan qui leur était annexé que voici. Vous voyez que ça n'est pas tout à fait, ça ne correspond pas à notre démarche encore d'aujourd'hui, n'est-ce pas, hein? Voilà. Ceci dit, on l'a utilisé à d'autres fins, le plan de masse, et je vais vous montrer. Et notamment, en revanche, dès cette époque-là, le Code de l'urbanisme et de la construction, je crois que c'était ça justement, je t'en parlais tout à l'heure, prévoit en effet, j'ai une petite faute, que lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, donc on parle bien de choses d'architecture, le document graphique peut délimiter des secteurs pour lesquels un plan de masse, coté à trois dimensions, donc avec la hauteur, pour lesquels définit des disciplines spéciales, c'est-à-dire en fait des prescriptions particulières en fait réellement. Moi, je vais l'utiliser, par exemple, quand j'étais chargé de poste pour jouer en Josas, qui est une des communes des Yvelines. Alors ça, c'est en 87, je crois. Oui, 87, quand même, après. Mais enfin, le plan de masse a perduré, bien évidemment. Vous voyez, pour organiser des terrains particuliers avec les lieux d'implantation, les hauteurs, les distances, etc., etc. Voilà un exemple. Mais on a pu l'utiliser aussi pour de vastes zones de loisirs. Par exemple, l'organisation d'une zone de loisirs, c'était le cas sur la zone de loisirs de la Cour Roland à Jouy-en-Josas, qui fait quand même un certain nombre d'hectares, où on prévoyait effectivement les affectations des lieux avec les dessertes, etc., les zones préférentielles de localisation de bâtiments, etc. Donc voilà un des exemples qui, effectivement, déjà à l'époque, pouvait... permettre une organisation plus nuancée et plus appropriée des lieux. Par ailleurs, le Code de l'urbanisme de construction dispose que le poste définit des règles concernant, bien sûr, et ça on le sait maintenant, le droit d'implanter les constructions, donc les fameux articles d'implantation, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur. Et c'est là qu'on a traîné, l'expression depuis l'origine, la notion d'aspect. Ce qui veut dire pas de matériaux. Leur dimension et l'aménagement de leurs abords, mais leurs abords au sens commun du terme, l'abord des constructions. Il peut également y être prévu des normes de construction différentes de celles qui résultent du COS, le fameux COS, en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture. Ça n'a pratiquement jamais été utilisé, cette disposition. Enfin, à ma connaissance, bien évidemment. Et le Code précise par ailleurs que le POS indique... Alors, on a cette formule-là maintenant qui perdure dans le L151-19 encore aujourd'hui, les quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique dès l'époque. Sauf que ça n'a pas non plus été forcément largement utilisé, sauf ensuite progressivement, avec notamment la confirmation de ce texte dans le Code de l'urbanisme et ses compléments. Donc le POS possède virtuellement, dès l'origine, de nombreuses dispositions permettant une gestion qualitative des espaces urbains, autant que naturel d'ailleurs, entre parenthèses, dans d'autres sphères, si je puis dire. Quelles en sont les entrées réglementaires réellement? Parce que ça, c'est une question qu'on doit se poser par rapport à la prise en compte du patrimoine. C'est quelles entrées réglementaires, notamment, on peut avoir de l'approche patrimoniale? Eh bien, la première des entrées, me semble-t-il, c'est une entrée morphologique, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on organise la ville, on organise les tissus, on respecte effectivement, une occupation collective des sols, des ambiances, etc., des architectures, des linéaires, etc. Donc ça, c'est la première chose, et ça, bien sûr, qu'on peut directement le réglementer grâce à l'implantation, à l'emprise et au sol et à la hauteur des constructions, qui permet notamment de gérer des formes urbaines. On a souvent parlé, et dès l'origine d'ailleurs, de la notion de forme urbaine. Et d'ailleurs, on avait, c'est là ou plus tard que je le dis, la DDO des Yvelines avait pondu, si je puis dire, un document d'analyse POS et formes urbaines. Comment la règle influait ou influençait la forme urbaine? Parce qu'il s'était avéré à l'époque que par mimétisme, etc., les POS produisaient une règle qui était insensible finalement à la forme urbaine, en tout cas qui ne la générait pas correctement. Et la question, bien évidemment, la deuxième question, c'est de permettre une bonne intégration, bien sûr, des constructions dans leur contexte. Et puis, bien évidemment, je ne vais pas vous faire de redite là-dessus, les fameux articles 11 sur l'aspect extérieur des constructions et l'article 13 sur les espaces libres et plantations, donc pour ce qui n'est pas bâti. Sur cette base, au milieu des années 70, un poste notamment, celui de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, épaulant un site inscrit, va jusqu'à déterminer comme en plan de sauvegarde et de mise en valeur. D'ailleurs, c'était un architecte chargé de plan de sauvegarde et de mise en valeur qui l'avait mis au point, Alexandre Médicinos en l'occurrence. Va jusqu'à déterminer une hiérarchie d'intérêt architectural entre les immeubles. C'est-à-dire qu'on avait trois catégories d'immeubles dans le poste. En 1976, la loi portant réforme de l'urbanisme permet au poste de délimiter les zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé, etc., etc. Prise en compte du tissu existant. Cette loi prévoit aussi, et c'est ce qui aura introduit implicitement, la notion de cause de fait, d'ailleurs, hein, qu'on a souvent, et notamment dans le poste parisien à l'époque. Cette loi prévoit aussi que le poste puisse délimiter des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants. Disposition qui, à mon sens, n'a pas été largement utilisée en poste. Elle l'a été forcément en plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec le jaune, le fameux jaune, effectivement, dont la démolition ou la modification pourra être imposée, bien évidemment. Mais là, la disposition n'est pas suffisamment forte et puissante et réglée, si je puis dire, pour qu'on puisse l'appliquer dans un document de droit commun, en fait, qui est le plan d'occupation des sols. Et à mon sens, elle n'a pas été utilisée beaucoup. C'était l'idée quand même, pas d'une amélioration du patrimoine, mais de la notion de curetage, c'est-à-dire d'assainissement des tissus, etc., hygiénique, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de postes stéréotypés. Moi, je l'ai vécu, hein, je le sais, je ne dis pas comme ça. Des rédactions stéréotypées d'article 11, j'en veux pour preuve, toute architecture étrangère à la région est interdite, bon d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Les enduits seront de ton pierre. Je sais pas, il y a entre le tuffeau et le basalte, vous voyez la nuance des couleurs, hein, quand même. Hein, et bon, enfin bref, vous voyez. Donc il y avait beaucoup de pratiques minimalistes, assez minimalistes et conventionnelles en fait, pendant de nombreuses années, au gré notamment de la pratique décentralisée ensuite des documents d'urbanisme. La question se pose aussi d'une évolution du tissu bâti souvent inadapté en application des règlements, je viens de vous en parler, et je vous ai parlé des formes urbaines, pardon, j'anticipais sur cet élément. Le ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie édite alors une série de fascicules techniques dont j'en ai encore certains éléments, malheureusement pas celui qui a trait au poste, donc il faudrait que je le retrouve, portant notamment sur la formulation des postes pour en améliorer la conception, mais essentiellement juridique, voyez, y compris dans la formulation de l'article 11, d'ailleurs, au passage. Je l'ai pas là. Donc en 1983, quand il s'est agi de décentraliser l'urbanisme, si je puis résumer, on n'a pas trop remanié ce socle-là. Et la notion de patrimoine apparaît quand même au détour du fameux article 110, le territoire français et le patrimoine commun de la nation. Mais c'est une approche territoriale, vous voyez, c'est pas une approche esthétique, etc. Sauf que, du même coup, on n'a pas effectivement supprimé les dispositions qui précédaient effectivement dans les plans d'occupation des sols pour la prise en compte du patrimoine et de la qualité. Seulement, avec cette décentralisation, cette fois-ci, on fait des postes à géométrie variable. Et les postes à géométrie variable, ça veut dire certains articles obligatoires et d'autres pas. Et les articles obligatoires, au départ, c'était lesquels? C'était les articles 1, 2, 6, 7 et 8. La question de la caractéristique des terrains, la hauteur, l'emprise au sol, tout ça n'était pas nécessairement compris dans les obligations de renseignement du plan d'occupation des sols à l'époque. Bon, ça se faisait, bien évidemment. Mais le texte ne prévoit comme poste minimal que les questions d'implantation de construction, en fait, pratiquement. L'article, bien évidemment, 11 sur l'aspect extérieur n'a jamais été obligatoire dans son renseignement, en tout cas. Hein. Et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Bon. Et on avait quand même, malgré tout, à l'époque, en se disant on va quand même accompagner la décentralisation, on avait mis en œuvre une expérimentation via les porter à la connaissance, puisque c'était une nouvelle procédure, qui consistait à établir des notes un petit peu de circonstances, techniques également, sur la prise en compte du bâti, des paysages, à l'adresse de la collectivité nouvellement responsable de son urbanisme. Alors cette note n'avait pas de valeur, n'était pas opposable, mais elle accompagnait le porter à la connaissance, on la concoctait avec le service départemental de l'architecture et la DDE des Yvelines notamment, pour faire en sorte d'apporter à la commune tous les éléments pour la meilleure prise en compte possible du paysage et du patrimoine. En 86, il est précisé que les zones ND peuvent être protégées les ND, donc dites naturelles, peuvent être protégées en raison de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. C'est notamment la prise en compte des vestiges archéologiques. C'est-à-dire, c'est pour cette raison-là, notamment, qu'on a effectivement augmenté un petit peu la chose. Donc le plan local d'urbanisme, c'est quoi ? C'est un objectif de refondation quand même, quelque part, de la démarche d'urbanisme. Au gré d'une part d'une démarche un petit peu de projet urbain, on a affirmé quand même la notion de projet urbain, parce que figurez-vous qu'elle était absente pratiquement des POS. Cette notion de projet urbain, les règles et tout ça, n'étaient pas une conséquence de la conception au départ d'un projet urbain. Donc là, ce qui a été tenté avec la loi SRU, c'est de dire non, il faut un projet, etc. Et la règle intervient en application, ou en tout cas pour la réalisation d'un projet au départ. Bon. Et puis il y avait la notion d'intégrer toutes les politiques aussi dans le PLU, hein, de logement, etc., déjà à l'époque, hein, pour faire vraiment, pour asseoir une politique cohérente, en fait, d'urbanisme sur la zone et sur les communes considérées. Bon. Et surtout, ce qui fonde nouvellement, et je crois qu'il faudra s'en inquiéter quand même par rapport à la question du PLU patrimonial, si on peut l'appeler ainsi, c'est la question du renseignement du projet d'aménagement et de développement durable dans le document. Parce que c'est lui, quand même, finalement, qui était considéré fédéré la politique d'urbanisme dans le document d'urbanisme, du plan local d'urbanisme. C'est lui qui fonde et qui donne le socle, a priori, de tout ce qui suit en matière de prescription, de dispositions réglementaires, etc. Et donc, le texte disait caractériser les îlots immeubles, espaces publics à protéger ou à mettre en valeur ou en qualifier pour des motifs. Ça, c'est la transcription de la phrase que je viens de vous citer avant. Donc, dès le niveau du projet d'aménagement et de développement durable. Et également, peut prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment ce qui concerne le traitement des espaces et voies publiques. Bah oui, d'accord. Les entrées de ville. Tiens. Les paysages. Mais là-dedans ne figure pas le patrimoine. Je le ferai remarquer au passage. Le PLU lui-même peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur, ça on le maintient, afin de contribuer, dit le texte, mais ça, pour moi, c'est une intention, pas plus, contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. De la même manière, il reprend le principe d'identification, mais cette fois-ci, on parle de quartier, on parle d'immeuble, avant on ne parlait que de monument. Donc ça veut dire qu'on peut généraliser le recensement des éléments bâtis intéressants. Avant, il fallait une exception. Là, non. Hein, on a tenu à introduire ce mot d'immeuble. Espace public, etc., pour des motifs d'ordre culturel, c'est-à-dire très très large motif, historique par définition, hein, quand même, ou écologique. Et il y a aussi une chose, c'est que dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur, on pratiquait ce qu'on appelait les sous-secteurs d'aménagement d'ensemble. C'est quoi ? C'est des zones en mutation dont on ne connaît pas, dont on ne peut pas émettre de dispositions réglementaires d'organisation parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. On ne sait pas quel projet peut y intervenir, etc. Ce sont des zones en devenir, en fait. Or, la réglementation jusqu'alors obligeait la collectivité, en l'occurrence, à définir tout. Donc il ne pouvait pas y avoir de zone en attente réellement. Sauf que nous, dans les plans de sauvegarde, on le pratiquait déjà par les sous-secteurs d'aménagement d'ensemble. Donc en fait, la loi SRU est venue un peu copier, malgré tout, ce qu'on pratiquait déjà, et finalement donner paradoxalement un socle, un fondement juridique à nos sous-secteurs d'aménagement d'ensemble des plans de sauvegarde et mise à l'heure, parce que c'est la même pratique, c'est-à-dire on peut instituer des servitudes consistantes, dit le texte, à interdire, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, donc là c'est le projet urbain ou partie de projet urbain par définition, les constructions, installations d'une superficie, etc., etc. Donc on peut suspendre la constructibilité, en fait, en quelque sorte, des zones considérées, et ça peut être très intéressant justement pour l'évolution urbaine, etc., même y compris quand on parle de patrimoine urbain en l'occurrence.
Alors, arrivent les fameuses orientations d'aménagement, on en a parlé beaucoup, notamment ce matin, qui sont effectivement relatives à des quartiers, des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, structurer ou aménager. Il faut qu'on soit en cohérence avec le PADD. Et l'objectif, c'est de mettre en valeur, dit le texte, l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine. Là, on voit apparaître le mot patrimoine. Donc, on a une entrée dans l'OAP sur le patrimoine. Dans les zones agricoles, on va aussi protéger les constructions qui, bien qu'étant en déshérence agricole, si je puis dire, n'étant plus occupées, vont constituer un patrimoine architectural intéressant. Ça veut dire qu'on va protéger et on va permettre à ces constructions d'évoluer en termes d'occupation, même si ça n'est pas usage agricole, pour protéger leur architecture. Vous savez, c'est le cas en zone rurale, des gîtes ruraux, etc., de reconversion, effectivement, de bâtiments souvent intéressants, hein, qui n'ont plus d'usage agricole. Et enfin, le règlement peut fixer une superficie minimale des terrains pour préserver, disait le texte, l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager. On connaît l'importance de la trame foncière dans la définition des architectures, etc., et du cadre urbain. Sauf que maintenant, ça a complètement disparu. Qu'à une époque, ça avait régressé uniquement pour des raisons d'assainissement individuel. C'est-à-dire qu'on ne fixait la superficie des terrains que pour des raisons de superficie d'assainissement minimale nécessaire. Et on avait perdu de vue cet aspect, effectivement, patrimonial. Aujourd'hui, on l'a complètement perdu de vue parce que, de toute façon, la loi Allure ne fixe plus de caractéristiques de terrain. C'est très clair pour nous. Voilà. Donc, le plus de droit commun peut comporter de multiples dispositions. Le problème, c'est que depuis les lois Grenelle, Allure, relatives à la transition énergétique, Macron, j'en passais des meilleurs, le plus est ouvert à de multiples dépassements, voire dérogations, qui peuvent nous questionner, bien évidemment, par rapport à la règle écrite ou graphique, peu importe, mais par rapport à son application effective. Et ça, c'est une vraie question, en tout cas pour nous, patrimoine, entre guillemets, spécialement y compris dans les secteurs sauvegardés, puisque certains dépassements sont possibles, hein, alors que le plan de sauvegarde est très précis quand même sur la morphologie, etc. Ça nous pose, c'est une vraie question essentielle aujourd'hui. Donc des questions importantes se posent, notamment à l'échelle urbaine. On parle de densification, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est du patrimoine. Ce n'est pas uniquement une occupation des lieux. Par exemple, on sait très bien qu'il y a des délaissés historiques dans les centres anciens, qu'il ne s'agit pas forcément de densifier. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, densification, pourquoi, dans quel sens, et selon quelle modalité, et quel respect des tissus existants ou de l'organisation urbaine, par exemple? Hein? Donc ça, c'est une vraie question qui va se poser à nous et qui se pose d'ores et déjà à nous sur le principe qu'il faut densifier pour éviter l'étalement urbain. Ben oui, c'est pas aussi simple que cela, en fait. Et en matière architecturale, c'est la question de la préservation des bâtiments existants. On en a parlé tout à l'heure également sur les questions, par exemple, d'isolation extérieure, etc. Le gommage ou pas des modèles nature et ainsi de suite. En fait, la banalisation complète du tissu patrimonial et architectural traditionnel, entre guillemets. Hein. Et enfin, dernier problème, et nous, là, au ministère de la Culture, par exemple, on est à cheval sur les deux. Il y a aussi la question de la création architecturale, de l'architecture contemporaine et de son accueil dans les centres anciens, notamment dans les centres historiques. Le principe de base, c'est qu'on peut, bien sûr, admettre de la création architecturale contemporaine, y compris en secteur sauvegardé, par exemple, etc. Le problème, c'est de savoir comment, jusqu'où, pourquoi, à quel endroit aussi, hein, par rapport à des linéaires bâtis, homogènes, etc. Souvent, l'architecture contemporaine se contente d'équipements publics. Peut-on avoir une architecture domestique contemporaine? Vous voyez les immeubles urbains, par exemple. Il y en a certains qui ont été réalisés. Par exemple, un hôtel à Nantes, pour ceux qui connaissent. Bon. Au cours des 50 otages, je crois, qui est assez intéressant en plus. Hein, puisque... Peut-on donc fondamentalement qualifier un plus de patrimonial? C'est vraiment une question que je me pose à l'éclairage de tout ce qui précède. Pourquoi? Parce que le plan local d'urbanisme est un document d'urbanisme de base. de droit commun, qui intègre tout. Ce n'est pas forcément un prisme absolu patrimonial, bien qu'il existe des PLU H, Habitat, par exemple, tout de même. Spécifique, inclus et patrimonial, ça veut dire que bah, finalement, on privilégie le patrimoine, etc., peut-être même au détriment des autres considérations qu'il a à prendre en compte, parce qu'il est un document d'urbanisme, de toute façon, de droit commun. Vous voyez la difficulté, hein ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Il y a des nécessités fonctionnelles, il y a des besoins collectifs, etc. Bon, là où on est, effectivement, en secteur souverain, c'est différent. La bannière, elle est très claire. C'est la protection ou la mise à l'honneur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, etc. Même si c'est un document d'urbanisme, en tout cas, l'affichage est là. En la matière du plus, j'allais dire, courant, il n'y a pas nécessairement cet affichage, a priori. Vous voyez ? Et puis, deuxièmement, il y a une question du traitement de ce patrimoine. Est-ce que c'est un volet patrimonial ? Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux règles de droit commun qui elles-mêmes s'exercent ? Et sachant aussi également que la question, effectivement, du patrimoine est déjà traitée implicitement dans les règles de morphologie, de toute façon. Comment distinguer une règle patrimoniale d'une règle morphologique de droit courant, entre guillemets, parce que les deux peuvent, de toute façon, être intimement liés, voyez ? Donc, personnellement, j'aurais tendance à dire que la démarche de volet patrimonial, enfin, ça, c'est mon point de vue, n'est pas forcément la bonne, parce que tout doit être intégré, en fait, dès l'origine, dans l'idée de prise en compte du patrimoine dans le document d'urbanisme. Donc, est-ce qu'on ne doit pas parler de plus qualitatif ? Ça veut dire que les autres ne le sont pas. On parlait à l'origine de post-fin, et puis qu'on a requalifié de post-qualitatif à un moment donné. Est-ce qu'il faut renforcer les obligations qualitatives dans ce cadre ? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est facultatif en la matière dans le code de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de disposition obligatoire sur l'article 11, etc., par exemple. Est-ce qu'il faut distinguer, si on parle de PLU qualitatif, de plus renforcé, avec des obligations qui n'existeraient pas dans le plus de droit commun, si je puis dire ? Ce n'est pas évident du tout, cette affaire. Donc, volet patrimonial, je viens d'en parler, je n'en parle pas. Et la spécificité, je viens de vous en parler par rapport à l'usage même de la règle morphologique qui se veut à la fois quantitative et aussi qualitative, quand même, en elle-même, déjà, en quelque sorte.